phénoménal, freestyle du visage pâle. Le Bartho est de retour au Arto. C'est parti, ça vient de Sané. Direct, issu de la génération fond qui t'a gêné. Pas de soucis, mais pas de chip ici. Pas de chichi si tu diras pour te chier dessus. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde sont étiquetés pour un. Mais c'est comme ça. Connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent. Et puis, ça bible de nous, rêve de voir en dessous. Mais ne t'approche pas, Hollande de Bond te fout des coups. De peu bon, si tu respectes pas les règles, mec du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec, tout cela, je les stoppe à base de pop, pop, pop. Scène, scène, hystère. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène, Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au bébé.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, négro, pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fout ta tessie dans tous ces états. Tu kiffes pas, Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit, j'lâche pas 9-3. J'suis le droit avec un fond spécial.
Ça c'est le sinistère.
C'est le sinistère.
C'est le sinistère.
C'est le sinistère.
Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit. Eh oh, ça se reconnaît au débit, baby. C'est la génération Franky Tankini. Pas de chichi, pas de chippy. Si tu dérapes, on te chie dessus.
C'est de la bombe, bébé.
Auditeur de Tranche de Vie, elle est jeune, elle est mince, affûtée comme un katana, et bien qu'elle ait le sourire facile et le regard direct, on devine à sa poignée de main et à sa manière de se déplacer que, comme disait ma grand-mère, elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Je remercie Hélène Reiss d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui de ses engagements et peut-être de ses rêves. Hélène, bonjour.
Bonjour, merci.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la vie d'une directrice de centre social?
C'est très animé. En fait, j'ai la chance effectivement d'être sur un poste où on a des tâches assez diverses et variées, puisque effectivement il y a toute la partie administrative, gestion, que ce soit sur les budgets, sur le management de l'équipe, etc. Et puis après, toute une partie plus de management de projet, et surtout, parce que c'est la partie qui m'intéresse le plus, de rencontres avec les habitants, de rencontres avec des hommes, des femmes, des enfants, des collègues qui ont envie d'inventer de nouvelles choses, de bouger pour leur territoire. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse.
Alors, ces deux grandes parties de votre activité, comme directrice du centre social du Gourde-l'Arche, elles représentent à peu près quel pourcentage, respectivement? Est-ce que c'est la rencontre avec les habitants, c'est-à-dire la partie que vous jugez la plus gratifiante, ou bien la partie administrative qui l'emporte pour vous?
Non, malheureusement, la partie administrative l'emporte sur un poste de direction. À l'inverse, je pense, d'un poste d'animation. Après, c'est aussi passionnant parce qu'il y a l'aspect de contact avec les partenaires pour pouvoir mettre en place différents projets avec des partenaires assez divers, que ce soit la Fédération des centres sociaux, que ce soit RLP, que ce soit un club de sport, etc. Donc c'est aussi une forme de contact qui est assez enrichissante.
Alors on parlera plus tard de vos partenariats. Quelles sont les activités d'un centre social comme celui du Gourde-l'Arche, qui, je le rappelle, fait partie de la commune de Périgueux?
Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue, mais par thématique, grosso modo, le centre social propose déjà d'accompagner au quotidien les habitants du territoire qui auraient besoin d'aide dans le cadre de démarches administratives ou pour comprendre comment fonctionne telle ou telle institution. Nous proposons également de l'accompagnement scolaire pour les enfants tous les soirs, pour les enfants de l'école élémentaire du Gourde-l'Arche. et également pour les collégiens. Nous proposons des cours de français, des ateliers cuisine, et puis après des lieux d'échange et de discussion sur des thématiques un peu plus précises, comme l'éducation, la parentalité, avec un groupe de parents, par exemple, le vendredi matin. En fait, notre panel d'action est assez large, et surtout, il dépend et des besoins et des envies des habitants, puisque l'objectif avant tout, c'est d'être vraiment un foyer d'initiative, c'est-à-dire qu'on puisse se retrouver là et être complètement dans la participation, réussir à monter ensemble des projets à court, moyen ou long terme.
Et ça concerne quel volume de population alors ?
Alors, sur le quartier du Gourde-l'Arche, aujourd'hui, il y a à peu près 1000 habitants. Notre territoire d'intervention comprend également le quartier du Bas-Toulon. Et ensuite, nous avons des personnes qui sont adhérentes du quartier, même certains qui sont bénévoles et qui n'habitent pas forcément dans ces deux quartiers.
Ah oui.
Donc, nous avons actuellement quasiment 400 adhérents au centre social, sur un bassin de population que j'estime à peu près à 2000 personnes, 2000 habitants. C'est des calculs qui sont un petit peu fastidieux.
2000 par rapport à 1000 sur le Gourde-l'Arche.
Oui, il y a 1000 habitants sur le Gourde-l'Arche. Si on prend une partie du Bas-Toulon, on se retrouve. Voilà, notre territoire d'intervention, c'est à peu près 2000 habitants. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à évaluer parfois.
Et alors, quelles obligations ça crée pour les gens de devenir membres du centre social ?
Alors, la seule obligation pour être membre du centre social, c'est de prendre une adhésion.
Ouais.
Annuel, qu'on a essayé de faire à un tarif, j'ai envie de dire, défiant toute concurrence, de manière à ce que ce soit accessible à chacun. Et même quand c'est compliqué, on arrive à proposer des paiements plusieurs fois. Donc la seule obligation, c'est celle-là. Ensuite,
j'imagine que la cotisation n'est pas astronomique quand même.
Non, je veux vous dire, c'est 5 euros pour une personne seule à l'année, 2 euros pour un adolescent seul et 10 euros pour une famille complète.
D'accord.
Donc effectivement, on n'est pas sur des tarifs trop prohibitifs. Après, il n'y a pas d'obligation. Simplement, on demande aux gens de nous dire quelles sont leurs envies, de nous dire sur quels ateliers ils vont venir, donc de respecter les modalités d'inscription. Et puis, on essaye de pousser un peu pour que le maximum possible d'adhérents participent à nos rencontres où on va définir un peu les projets ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye de faire qu'il y ait de plus en plus de bénévolat, par exemple, etc.
Donc par rapport aux activités d'un centre communal d'action sociale, vous situez dans un secteur qui est plus culturel et plus ludique ou
Oui, pour parler un peu en langage technique, on va dire que le CCAS, le Centre communal d'action sociale, fait vraiment de l'action sociale, c'est-à-dire qu'il propose des prestations. Ils vont pouvoir aider les personnes, que ce soit avec des tarifs préférentiels sur les tickets de bus pour les personnes qui sont au RSA, que ce soit tout ce qui est aide à domicile pour les personnes dépendantes, alors que nous, on n'est pas sur de l'action sociale, mais plus sur du développement social. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du service direct à la population, c'est plus l'idée, effectivement, d'avoir une implication des habitants dans la dynamique de leur quartier.
Alors, le centre social du Gourde-l'Arche a été, on va dire, restauré, agrandi, relooké. Mmh. Est-ce que à l'heure actuelle, c'est un endroit que vous jugez fonctionnel et où vous pouvez travailler, faire ce que vous avez l'intention de faire assez facilement ?
C'est assez fonctionnel sur l'ensemble. C'est vrai que par rapport aux anciennes conditions qu'on avait avec cette maison de quartier qui n'était pas assez grande,
oui,
qui n'était pas forcément bien configurée, où il y avait des problèmes de bruit, etc., c'était un peu compliqué. On a un peu souffert aussi pendant les travaux, puisqu'il a fallu être relogé.
Oui,
donc
oui,
l'équipe a été éclatée dans différents endroits du quartier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un espace confortable, chaleureux, je crois, et qui permet de répondre à peu près à l'ensemble de nos demandes. Après, on ne va pas se mentir, quand on fait un chantier, il y a toujours les petits détails à la fin, sur le mobilier, sur tel ou tel choix de revêtement au mur ou quoi, qui ne correspond pas forcément à notre pratique. Mais bon, il y a des choses qu'on ne voit pas avant et qu'on voit tout simplement à l'utilisation, quoi.
Et dans l'adhésion de la population sur laquelle vous êtes censé agir, vous êtes satisfaite du,
Je crois que la population, dans son ensemble, est vraiment satisfaite.
Le centre social du bord de l'Arche, c'est quand même, vous parliez de la maison de quartier qui l'a précédée, c'est quand même quelque chose d'ancien, déjà.
C'est que, oui, je crois que ça date des années 90, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que moi, je suis arrivée à Périgueux en 2010, donc je n'ai pas forcément tout l'historique. En tout cas, l'agrément centre social, le fait que ce soit reconnu comme tel par la CAF, ça date de 2009, exactement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est vraiment apprécié par l'ensemble des personnes qui y viennent. Effectivement, je répète, hein, c'est quand même assez chaleureux. Il y a une ambiance plutôt agréable. Les personnes savent qu'ils vont avoir une oreille attentive quand ils viennent nous voir, etc. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait l'attractivité du lieu. Et puis avec cette reconstruction, nous avons la chance maintenant d'avoir l'agence postale à l'intérieur du bâtiment.
Ah bon ?
Oui, donc, une agence postale savez, communale.
Tout à l'heure, vous parliez de plusieurs casquettes, vous êtes aussi postière alors ?
Alors, pas moi directement, mais en tout cas, d'avoir cette agence à l'intérieur du bâtiment, c'est quelque chose de très intéressant parce que du coup, il y a des personnes qui viennent à la poste qui ne seraient pas venues au centre social si la poste n'avait pas été là.
Le centre social.
Et puis qui découvrent et du coup qui restent faire des activités avec nous ou participer, et c'est vraiment positif.
Alors les trois pôles de votre activité, j'imagine, enfin en parlant de génération, j'imagine que c'est des jeunes, éventuellement les jeunes adultes, mais c'est toujours le secteur qu'on n'arrive pas à attraper parce que les gens travaillent, et puis les personnes âgées. Vous avez des activités dédiées à ces trois secteurs ?
Oui, en fait, si on prend cette entrée par public, on va dire qu'il y a tout le public moins de 11 ans. Donc là, c'est essentiellement autour de l'accompagnement scolaire qu'on leur propose et puis des activités le mercredi après-midi. Ensuite, il y a le public des adolescents, avec une petite particularité, c'est que nous avons un agrément d'accueil de loisirs. Donc le mercredi après-midi, le vendredi soir et pendant les vacances, les adolescents sont accueillis pour faire des projets vraiment spécifiques, en partenariat avec la CAF, Jeunesse et Sport. Ensuite, sur le public famille, on essaie de travailler sur la parentalité avec différents partenaires. Donc c'est là, par exemple, qu'on va intégrer un peu des actions comme les ateliers cuisine, les ateliers de langue française, même s'ils peuvent être assez intergénérationnels. Et ensuite, sur le public senior, on a là vraiment tout un panel d'activités proposées parce que on se rend compte que partout, comme partout ailleurs, les personnes âgées souvent sont isolées, rencontrent des difficultés pour créer des liens, etc. Ils n'ont pas tous une famille proche ou qui peut venir les voir quotidiennement. Donc on essaye de travailler avec eux sur garder des liens pour ne pas s'isoler, pratiquer des activités qui permettent de prévenir aussi les chutes, les problématiques d'alimentation, etc. Donc en fait, sur cette tranche d'âge, je crois qu'on a un panel d'activités assez large qui correspond bien aux demandes et aux besoins.
Alors, comment se situe votre action maintenant dans le cadre de ce qui a été mis en place au titre de la politique de la ville, à savoir la création des deux grands quartiers prioritaires, hein, celui de Gourde-l'Arche et celui de Coulouignes-Chamier. Est-ce que ça a créé des synergies nouvelles entre ce que vous faites et puis ce que fait un centre comme le Centre Social Saint-Exupéry à Coulouignes-Chamier, par exemple ? Est-ce que ça a élargi vos partenariats et est-ce que ça a modifié un petit peu votre travail ?
Sur quelle temporalité on se situe ? Parce que la politique de la ville existe depuis un moment sur le quartier, donc depuis le début, quoi.
Oui, depuis le début.
D'accord.
Oui,
depuis le début. En fait, on essaye de travailler aussi en complémentarité.
Parce alors, que c'est vrai que vous avez été sollicité, forcément, pour participer à ces opérations.
Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc, sur la politique de la ville. Comme je disais, nous, on essaie d'être en complémentarité un peu avec ce qui se fait aussi sur le centre social Saint-Exupéry. Par exemple, par rapport aux cours aux ateliers de français langue étrangère, aux cours de français, on vient sur des temps différents de Plume. La plupart du public qui vient chez nous est aussi inscrit à Plume. Et donc, on vient en complément, même parfois reprendre un peu ce qui a été vu à l'atelier Plume et qui nécessiterait d'être un petit peu approfondi.
Je précise pour nos auditeurs que l'atelier Plume, c'est l'atelier d'apprentissage du français pour étrangers et qui existe depuis déjà de nombreuses années au Centre social Saint-Exupéry.
Oui, et qui a réussi à développer des techniques en termes de pédagogie qui sont vraiment intéressantes et innovantes et qui fait vraiment référence, je crois, quasiment sur toute la région sur ce type d'activité.
Vous avez un éventail de nationalités important, aussi important que celui de Coulunier-Chamier en matière d'apprentissage du français.
Sur l'apprentissage du français, j'ai pas fait les calculs. C'est vrai que c'est assez ça bouge beaucoup, surtout avec les nouvelles populations qui arrivent en France. Donc ça multiplie le nombre de nationalités qu'on peut avoir. Après, au-delà des nationalités, il y a aussi des personnes qui ont la nationalité française, mais qui n'ont pas forcément fait l'école en France lorsqu'ils étaient enfants et qui aujourd'hui aussi ont besoin d'accompagnement. Donc là, on n'est pas sur du français langue étrangère. On est sur d'autres types d'apprentissage, mais il y a aussi cette demande, donc c'est assez varié, effectivement. Et après, quand on regarde, c'est très riche, hein. Il y a des personnes qui viennent de presque toute l'Afrique, de presque toute l'Europe de l'Est, sans compter Moyen-Orient, Proche-Orient, etc.
Donc tout ça, c'est un matériau idéal pour organiser des rencontres, des concrets, des contacts, et puis... initier la population générale à la pratique de la tolérance, j'imagine.
Exactement. Vous savez, c'est pas sur. En général, c'est pas sur les quartiers de la politique de la ville qu'on a des problèmes de tolérance. En tout cas, le vivre ensemble existe bien sur ces quartiers. Ce qui manque, c'est la mixité sociale, malheureusement. Et c'est d'ailleurs ce qui définit un quartier en politique de la ville. Maintenant, on essaye effectivement à travers différentes choses, mais. D'emblée, c'est plutôt vécu comme une richesse de la part des habitants des quartiers. C'est pas quelque chose qui est trop qui est problématique ou qui pourrait être regardé avec un œil un peu angoissé, tout simplement parce que je crois que la grande majorité des habitants de ce quartier ont aussi vécu l'exil un jour et que ça laisse des traces.
Oui, mais là, je suis bien d'accord avec vous pour reconnaître que c'est pas de l'intérieur de ces quartiers que viennent les problèmes. Alors. Une dernière question, est-ce que vous êtes à l'aise financièrement pour faire marcher, pour organiser au mieux toutes ces activités ? Indiscrète, vous pouvez l'éluder.
Non, c'est pas, je crois pas que ce soit une question trop indiscrète. Vous savez, en plus, on est sur de l'argent public, hein, donc c'est aussi en partie le contribuable, etc. Donc il n'y a pas de secret non plus là-dessus. On est en difficulté pour développer parfois certaines actions, et notamment quand on a besoin de personnel complémentaire. Maintenant, pour faire vraiment le cœur de notre travail aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de faire, on essaye vraiment de se reconcentrer sur la base même des activités du centre social. Je pense qu'on a les moyens nécessaires parce qu'on a aussi la chance d'être sur un quartier qui n'est pas trop énorme. Donc on a une équipe assez complète avec animateurs, référents famille, etc. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on ait de grosses difficultés financières. Malgré tout, avec plus d'argent, il y aurait toujours forcément des projets complémentaires qui pourraient se mettre en place.
Bien entendu. Donc j'imagine quand même que malgré cette relative aisance dont vous parlez, vous faites la course aux suppléments
qui pourraient
vous permettre de travailler encore plus et encore mieux. Si vous le voulez bien, Hélène, on va maintenant vous demander... Comment on devient directrice d'un centre social ? Quel a été votre itinéraire pour aboutir à ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, mon itinéraire, comment dire ? Moi, j'ai pas été animatrice en centre social avant d'avoir un poste de direction. Il y a eu toute une génération, je crois, où on était effectivement plutôt dans l'évolution des postes en interne et où souvent, effectivement, les directeurs de centre, alors là, je parle des années 90 notamment, étaient des personnes qui avaient pu évoluer. On est un peu moins dans ce genre de configuration aujourd'hui. Aussi parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un peu l'inflation scolaire, avec effectivement des diplômes de plus en plus demandés pour faire tel ou tel type de poste. Donc moi, j'ai eu mon bac, je suis allée à la fac, j'ai fait d'abord des études de psychologie. Ensuite, après une maîtrise de psychologie, j'ai fait des études en master en sciences de l'éducation. sur ce qu'on appelle l'ingénierie des programmes d'insertion. Suite à ça, j'ai trouvé un poste de coordinatrice d'un programme de réussite éducative, en sachant qu'à l'époque, j'étais en Seine-Saint-Denis, en 93. Et donc, j'y suis restée quelques années. J'ai passé mon concours d'attaché pour rentrer fonctionnaire. Et donc, je suis arrivée à Périgueux. Donc, pardon, il faut que je retrouve le parcours parce que je ne me souviens pas de toutes les étapes. Donc oui, après le concours d'attaché, en fait, j'ai quitté le poste sur le programme de réussite éducative.
Il y a quand même une étape qui risque d'avoir été virale, c'est celle du 9-3 quand même.
Ah oui, c'était un choix pour moi d'aller en Seine-Saint-Denis. C'est un département qui m'attirait beaucoup parce que c'est vrai qu'au niveau social, socioculturel, il y avait beaucoup de choses à faire. Et je trouve que c'était intéressant parce qu'il y avait aussi beaucoup de richesses au niveau des associations qui pouvaient se développer, etc., etc. Donc oui, ça a été assez viral et ça a complètement conforté l'idée que j'avais de travailler avec les populations les plus fragiles, quoi, tout simplement.
Alors, je voudrais vous demander maintenant de me dire si vous avez d'autres engagements. Je crois que vous avez des engagements politiques. Vous travaillez en partie par idéal, j'imagine. Et donc, vos engagements politiques sont complémentaires de votre travail social ?
Ah, c'est marrant parce que oui, j'ai souvent revendiqué qu'il y avait une sorte de complémentarité avec l'idée que finalement au travail on essayait de penser un peu les plaies et qu'en politique on pouvait essayer de changer carrément le système pour que ces plaies-là n'apparaissent plus. Aujourd'hui, je crois qu'il faut un équilibre et que tout le monde a sa place dans ce type de combat, que ce soit pour penser les plaies ou que ce soit pour changer le système tout simplement. J'ai eu une parenthèse, effectivement, avec cette expérience là par rapport aux élections législatives. Je ne suis pas convaincue aujourd'hui de continuer vraiment l'engagement politique. Par contre, je suis toujours militante à l'association Femmes Solidaires. Et ça fait partie des combats qui vraiment me tiennent à cœur autour de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes.
De toute façon, même si c'était un galop d'essai, ça reflétait pleinement vos convictions, j'imagine.
Oui, on va dire les idées qui ont pu être développées dans le programme L'Avenir en commun, je m'y suis vraiment retrouvée. Maintenant, la difficulté, elle est plus dans les structures en fait des mouvements, où souvent j'ai du mal après à vraiment m'intégrer.
Mais ces engagements en particulier pour la cause des femmes doivent vous servir quand même quotidiennement dans votre travail de directrice de centre social.
Mais en fait, c'est l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire que on est, je crois que je vois les choses à travers un prisme, et c'est vrai que ce prisme du féminisme est assez important pour moi, parce que au quotidien, quand on voit les mauvaises habitudes qu'on peut prendre, que tout le monde a pris dans cette société, on se dit qu'il y a vraiment des tout petits combats à mener jusqu'au plus grand. Depuis très longtemps. Ouh là là, je dis pas que c'est récent. On est bien d'accord.
Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, aborder peut-être des aspects plus personnels de votre vie, si vous avez d'autres passions que le social et la gestion de votre centre?
Je crois que c'est toujours finalement en lien avec ça. Voilà, je lis beaucoup d'articles de presse. Je ne regarde pas beaucoup la télé. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau d'ailleurs, mais je crois que ça fait 3 mois que je ne l'ai pas allumé et ça me libère énormément l'esprit. Ouais. Donc je suis pas mal sur des lectures. Après, on ne va pas se mentir, c'est un travail qui est quand même assez prenant. Plus après l'association, le travail fait au sein de l'association, il ne me reste pas beaucoup de temps pour d'éventuelles passions. Mais j'en ai une particulièrement, c'est la gastronomie et la cuisine. Pour moi, un vrai moment de détente, c'est d'écouter la radio en cuisinant. Voilà.
Donc, vous êtes intéressé par votre atelier cuisine. Et alors, qu'est-ce que vous y faites, si on n'est pas trop curieux? Dans cet atelier cuisine du centre social, vous faites des cuisines exotiques?
Oui, on essaye d'être sur l'échange par rapport aux différentes cultures qu'on peut avoir, puisqu'il y a des choses très... très diverses, en allant de la soupe borge, là, avec par exemple la soupe russe avec des betteraves, jusqu'au tagine sucré-salé. Enfin voilà, on a quand même un éventail de savoir-faire assez important. Donc je me nourris de tout ça, j'apprends. Et c'est effectivement l'occasion pour moi de retrouver un peu la passion par rapport à cet atelier. Mais bon, c'est pas moi qui le gère non plus, j'ai pas le temps de m'occuper de tout. On va voir, j'espère qu'on va pouvoir développer quelque chose d'un peu nouveau avec les habitants sur cet atelier. C'est le défi des 6 prochains mois.
Vous avez choisi le Périgord délibérément, ou bien est-ce que ça a été le hasard qui vous a conduit ici ?
Alors, en toute honnêteté, c'était pas complètement délibéré. Je suis née à Périgueux. J'ai ma famille qui est originaire de Dordogne, mais moi j'ai grandi à Limoges. Et donc j'avais jamais habité Périgueux. Lorsque j'étais en région parisienne, au bout d'un moment, je cherchais effectivement à quitter la région parisienne pour me rapprocher de ma famille. Et donc j'ai cherché un moment un poste à Bordeaux, parce que je voulais rester dans une grande ville. Ça a été trop compliqué. Et quand le poste de chef de projet politique de la ville s'est présenté à Périgueux, du coup j'ai candidaté. Alors au début, j'ai découvert la ville avec effectivement ce sentiment que c'était un petit village où tout le monde se connaît, se reconnaît. Donc par rapport à l'anonymat des grandes villes, c'était un peu étonnant. Voilà, il a fallu s'y habituer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment adopté Périgueux parce que je trouve qu'il y a une douceur de vivre. On peut manger des choses saines en sachant d'où ça vient, etc. etc. On n'est pas loin des grandes villes. On n'est pas loin de Bordeaux. Donc c'est assez facile d'y aller sur la journée quand on veut retrouver un peu d'urbanité. Donc voilà, je trouve que c'est un bon compromis.
Et en même temps, ce retour au pays que vous décrivez comme un pays tranquille, c'est aussi un pays dans lequel on rencontre des situations et des problèmes sociaux qui méritent qu'on s'y intéresse de près.
Exactement.
Merci beaucoup de votre témoignage, Hélène.
Avec
et
plaisir.
Bon courage pour continuer.
Merci bien, merci à vous.
إلى أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوب من دماء وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباة فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجري الجراح تأمل هنالك إني حصدت رؤوس الورى زهور الأمل رويدك لا يخبي عنك الربيع
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.